Vous êtes bien à l'écoute de Radio France Internationale. Bienvenue si vous nous rejoignez. Il est midi 30 ici à Paris, une heure de moins en temps universel.
RFI Midi. Grégoire Morelli.
Nous sommes ensemble pour deux heures à faire le tour de l'actualité à travers le monde. Et au programme, tout d'abord, le réseau social X qui fait face à la justice allemande. L'anciennement Twitter a perdu un procès contre deux ONG et doit désormais fournir aux chercheurs des données concernant la portée, le nombre de likes ou encore les partages des tweets sur la plateforme. Dans l'actualité également, le secrétaire d'État américain Marco Rubio, le conseiller à la sécurité nationale du président américain Mike Pence, ainsi que l'envoyé spécial pour le Moyen-Orient, représenteront les États-Unis à la rencontre avec la Russie, prévue ce mardi à Riyad. De son côté, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et son équipe de commissaires européens se rendront, eux, la semaine prochaine en Ukraine pour le troisième anniversaire de l'invasion russe. C'était le 24 février 2022. L'Ukraine, il en est aussi question avec cette réunion qui se tient à Paris aujourd'hui. Une dizaine de dirigeants des pays de l'Union européenne et de l'OTAN sont présents. Les Européens qui craignent d'être exclus des discussions pour une paix en Ukraine, après que Donald Trump a déclaré hier que cette rencontre donc à Riyad aurait lieu. Pour Nicolas Tenzer, enseignant à Sciences Po et spécialiste des questions internationales et de sécurité, il faut que l'Europe se mette en marche et passe en économie de guerre.
Il faut forcer la porte, c'est-à-dire dire, bah, écoutez, il n'y a pas d'accord sur l'Ukraine uniquement décidé par Poutine et Trump. Il faut non seulement que l'Ukraine, évidemment, soit partie, mais aussi les Européens. Donc nous refuserons, nous Européens, tout accord qui serait négocié de manière séparée par les États-Unis et la Russie. Je pense que ça doit être le BESA.
Nicolas Tenzer, enseignant à Sciences Po et spécialiste des questions internationales et de sécurité. Hier dimanche, c'est le Royaume-Uni qui s'est dit prêt à envoyer, si nécessaire, des troupes sur le terrain en Ukraine pour contribuer aux garanties de sécurité du pays. Londres, qui entretient une relation privilégiée avec Washington, s'est toutefois gardé de critiquer le plan de paix de Donald Trump pour l'Ukraine, les deux alliés entretenant donc, on le disait, une relation spéciale. On en parlera avec notre invité François Heisbourg, conseiller spécial à l'ISS, l'International Institute for Strategic Studies. Il sera notre invité. Et puis, nous irons aussi au Venezuela. Un État neuf et amélioré, c'est la promesse de Nicolas Maduro qui veut mener une réforme constitutionnelle malgré sa réélection contestée. Le président a annoncé un grand débat public sur cette question. Mais dans un pays où l'opposition est muselée, beaucoup redoutent de prendre la parole.
N'importe quel propos, n'importe quelle phrase peut aujourd'hui justifier d'être arrêté. Il n'y a pas de débat public là où il n'y a pas de liberté d'expression. Ils organisent des tables rondes où ils disent qu'ils sont tous d'accord et ils appellent ça une consultation populaire. De temps en temps, ils invitent des ONG pour donner leur avis, mais qui va oser parler dans ces conditions ?
Il s'agissait d'Ali Daniels, un juriste vénézuélien qui ne croit pas en ce débat public pour une nouvelle constitution. Dans notre rendez-vous Amérique, nous parlerons aussi d'Haïti avec ses combats rapportés autour de la vigne de Kainskoff, verrou stratégique en périphérie Port-au-Prince. Haïti toujours. Joe Biden avait mis en place un programme s'appelant Parole humanitaire qui avait permis à plus de 200 000 Haïtiens de rentrer légalement sur le sol américain. À présent, Donald Trump menace d'annuler ce statut. Vous avez le programme. Bonne écoute.
RFI à Paris, 89 FM.
Et cette réunion donc improvisée cet après-midi aux alentours de 16h à Paris avec une dizaine de dirigeants européens sur l'Ukraine et la sécurité en Europe. Après l'électrochoc de la conférence de Munich sur la sécurité où les représentants américains ont évoqué une possible exclusion des Européens des discussions autour de la paix en Ukraine, la réponse s'organise en ordre dispersé. Nicolas Rocca, je me tourne vers vous, bonjour.
Bonjour Grégoire.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe et les émissaires américains sont eux attendus en Arabie Saoudite mardi et mercredi pour ce qui ressemble au début des discussions concrètes. Alors Nicolas, les Européens sont pour l'instant les grands absents.
Oui, et ce malgré les affirmations du ministre des Affaires étrangères français Jean-Noël Barrot qui assurait que d'une façon ou d'une autre les Européens participeraient aux discussions. On semble se diriger vers un scénario bien différent. Pour l'instant, c'est la ligne de Moscou qui l'emporte. Il n'y a pas de place dans les négociations pour les Européens qui veulent continuer la guerre en Ukraine, a assuré le chef de la diplomatie. Diplomatie russe attendue ce mardi, vous l'avez dit, à Riyad. De leur côté, les États-Unis ont adressé un formulaire aux pays européens pour recueillir des informations sur les armements, les contingents de maintien de la paix et les différents dispositifs de sécurité qu'ils étaient en mesure de fournir à l'Ukraine. Une demande assez humiliante pour les dirigeants du continent qui ont vu en quelques jours son principal allié, le garant de sa sécurité, montrer sa volonté de se désengager significativement de l'OTAN et l'exclure de fait des négociations sur la paix en Ukraine, une guerre sur le sol européen.
Cela engendre
entendre tout de même une forme de réveil des différentes capitales européennes. Un tabou semble s'être levé avec le Royaume-Uni et la Suède qui parlent d'envoi de troupes au sol en Ukraine dans le cadre d'une force de maintien de la paix.
Oui, Keir Starmer, le Premier ministre britannique, l'a assuré dans le Daily Telegraph samedi. Son pays est prêt et disposé à contribuer aux garanties de sécurité en Ukraine en envoyant ses propres troupes sur le terrain. Une première pour le Royaume-Uni qui a trouvé un écho en Suède. Ce lundi, Maria Malmer-Stenergard, la ministre des Affaires étrangères suédoise, n'exclut pas que des soldats de son pays participent à une force assurant le maintien de la paix. Des mots similaires à ceux d'Emmanuel Macron en début d'année dernière, qui à l'époque avait entraîné une levée de boucliers. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, lui, est allé plus loin à Munich en appelant de ses voeux à une force européenne.
Soyons honnêtes, nous ne pouvons pas évacuer la possibilité que les États-Unis refusent d'aider l'Europe face aux menaces qu'elle affronte. Beaucoup de dirigeants ont évoqué le fait que l'Europe a besoin de sa propre armée, une armée européenne.
Des applaudissements, Nicolas, qui montrent un soutien d'une partie des participants à la conférence de Munich. Mais à quoi ressemblerait cette force militaire européenne pour l'Ukraine ?
Difficile à dire. Tout reste très flou à ce stade. En tout cas, on reste loin de la construction d'une armée européenne à laquelle le président ukrainien fait allusion. Et la réponse au coup de force diplomatique américain s'organise à la hâte. L'idée qui semble faire son chemin est celle d'une force présente en Ukraine pour dissuader toute reprise du conflit une fois un accord de paix trouvé. Et des discussions auraient déjà débuté en ce sens, a indiqué ce dimanche Jean-Noël Barrot sur LCI.
Comme nos partenaires européens, au premier rang desquels les Britanniques aussi, et les Polonais, trois grandes armées européennes, des armées d'emploi,
ça fait... Sur les hommes au sol, les Polonais sont assez prudents pour l'instant. Hein.
Pour l'Ukraine, je vous parle d'armées d'emploi, c'est-à-dire d'armées qui ont l'habitude de se projeter et de combattre.
Mais là, c'est très concret, c'est maintenant.
Bien sûr, il y a des réflexions qui sont en cours à différents niveaux. Vous imaginez bien qu'un plateau de télévision n'est pas le lieu de faire état de ces réflexions.
Mais si cette proposition, Nicolas, séduit certains pays, des voix s'y opposent déjà.
Oui, Berlin a annoncé à l'instant qu'elle juge prématurée ces discussions sur l'envoi de troupes en Ukraine et la réponse européenne s'organise de façon assez dissonante. La Slovénie regrette de ne pas avoir été conviée à la réunion entre dirigeants européens prévue aujourd'hui à 16h à Paris. Une réunion entre des dirigeants frustrés qui veulent empêcher un accord de paix, affirme de son côté la Hongrie. L'Italie, l'Allemagne, la Pologne, l'Espagne, les Pays-Bas seront présents à Paris, tout comme le Danemark chargé de représenter les pays baltes et nordiques, ainsi que les responsables européens et le secrétaire général de l'OTAN. Alexander Stubb, le président finnois, prenait lui ce week-end à Bruxelles une ligne plus mesurée dans une interview donnée à Politico.
Je crois qu'il y a eu beaucoup de cacophonie ce week-end. Et en tant que finnois, je veux juste dire, ralentissez, calmez-vous, prenez un bain glacé, allez dans un sauna. Réfléchissez à la situation et trouvez une solution. Analysons ce qui est en train de se passer. Poursuivons l'alliance transatlantique, le dialogue avec les États-Unis et quelque chose de positif sortira de tout cela.
Désormais, les Européens doivent rendre rapidement faisable ce qui semblait impossible il y a quelques semaines, s'accorder sur des garanties de sécurité pour Kiev. Volodymyr Zelensky estime que 200 000 troupes européennes devraient se déployer. Pour l'instant, on semble plutôt se diriger vers 30 à 40 000 hommes. Un déploiement limité donc et qui prendrait du temps, ce dont les Européens, Grégoire, manquent cruellement.
Merci à vous, Nicolas Rocca, pour toutes ces précisions.
RFI Midi, l'Europe à midi.
En Grèce, depuis fin janvier, la zone maritime proche de l'île de Santorin, dans l'archipel des Cyclades, est agitée par des milliers de séismes de faible intensité. Malgré l'absence de dégâts, la majorité des 16 000 résidents et travailleurs saisonniers de Santorin ont quitté l'île par mesure de précaution. Les autorités grecques ont annoncé dimanche de premières mesures de soutien économique aux salariés du secteur touristique. À Athènes, les précisions avec Joël Bronner.
Le tourisme joue un rôle fondamental pour l'économie grecque. Au sens large, le secteur représente aujourd'hui plus d'un quart du PIB du pays. Et l'île de Santorin, avec sa notoriété internationale et ses près de 3,5 millions de visiteurs l'an dernier, en est l'un des fleurons. Autant dire que les autorités grecques observent d'un œil inquiet la série de séismes en cours dans cette zone de l'archipel des Cyclades entre Amorgos, Santorin, Ios et Anafi. Par mesure de sécurité et pour la troisième semaine consécutive, les écoles des quatre îles resteront d'ailleurs fermées ces prochains jours. Athènes a aussi autorisé la suspension des contrats de travail sur ces îles jusqu'à début mars et annoncé une compensation spéciale de plus de 500 euros pour les salariés concernés. La haute saison touristique, elle, débute en Grèce autour de la Pâque orthodoxe qui tombe cette année fin avril. Rien n'indique à ce stade que cette série de séismes d'une ampleur inédite depuis le début des relevés dans les années 60 n'ait pris fin d'ici là. Et c'est bien cette incertitude autour de la durée et de l'intensité de ces secousses qui menace de contrarier la saison touristique à venir. Joël Bronner, Athènes, RFI.
On s'intéresse à présent à un de nos voisins, l'Italie. Les chiffres de son commerce extérieur pour 2024 ont été publiés ce lundi et ils sont en légère baisse, moins 0,4%. On le voit, la tendance est dans le rouge. Pour autant, Stéphane, bonjour Stéphane, au passage.
Bonjour Grégoire.
L'Italie est l'une des championnes européennes des exportations.
Oui, quatrième exportateur mondial au pied du podium, hein, derrière la Chine, les États-Unis et l'Allemagne, pays qui est en pointe pour vendre sa production tout autour de la planète. Les secteurs où l'industrie italienne brille, c'est la mode, l'ameublement, les matériaux, la construction et évidemment la production alimentaire et le vin, des exportations qui sont essentielles à l'économie italienne puisqu'elles représentent à peu près un tiers de son PIB.
Alors Stéphane, comment expliquer ces succès des exportations italiennes ?
Ça tient en un chiffre, Grégoire, 400 000, c'est le nombre d'entreprises industrielles dans le pays. C'est beaucoup, hein, puisqu'à titre d'exemple, la France en compte 250 000. Et la particularité de l'Italie, c'est que 99% de ces structures sont des PME, des petites et moyennes entreprises. Mais ce qui fait leur spécificité, c'est qu'elles sont regroupées en districts industriels, par secteur donc, comme par exemple l'agroalimentaire ou le cuir, pour ne citer que.
Alors comment ça marche ?
Eh bien, c'est simple, en étant regroupé, disons, par secteur, cela favorise la complémentarité des entreprises. Autre aspect important, c'est que la concurrence est exacerbée dans ces tissus industriels. Conséquence, ça pousse ces structures à sans cesse innover et donc à être en pointe sur certains marchés, ce qui fait que le pays est bien intégré dans les chaînes de valeur. Et puis l'autre explication de cette dynamique italienne des exportations, elle est d'ailleurs beaucoup plus simple à comprendre, Grégoire, c'est que produire en Italie coûte moins cher que dans d'autres pays européens. Résultat, les produits sont vendus moins cher, ce qui rend l'industrie italienne plus compétitive que d'autres.
Et donc Stéphane, les chiffres des exportations pour 2024, on disait, ont été publiés et la dynamique en revanche s'affaiblit.
Oui, hein, la croissance italienne est à peine positive, cela signifie que la production stagne. Dans certains secteurs, elle est en chute libre, à moins 43% l'an passé par exemple pour la production automobile, expliquée notamment par les difficultés du groupe Stellantis. C'est difficile aussi pour des secteurs porteurs de ces exportations comme la mode ou encore la métallurgie. On notera aussi que d'un côté, la population vieillit, de l'autre, les jeunes ne veulent plus travailler dans cette production industrielle. Le modèle italien qui arrive petit à petit à bout de souffle.
Alors ça, c'est l'explication côté italien, mais les acheteurs, eux, ils sont toujours au rendez-vous ?
Oui, effectivement, c'est ça qui complique la situation, puisqu'ils le sont un peu moins. L'Allemagne, qui est le partenaire commercial principal de l'Italie, importe moins en raison de ses propres difficultés économiques. Ça se maintient en tout cas côté américain, deuxième client du pays. Les entreprises américaines qui ont d'ailleurs dû faire du stock ces derniers mois avant l'entrée en vigueur d'éventuels droits de douane à l'encontre des pays membres de l'UE. Selon Confindustria, la Fédération des entreprises italiennes, cette nouvelle taxation pourrait coûter entre 4 et 7 milliards d'euros par an à la péninsule. Mais c'est sans compter sur Giorgia Meloni qui entretient des liens étroits avec Donald Trump. Une relation qui pourrait lui permettre d'obtenir des passe-droits.
C'était Stéphane Genès du service économie de RFI.
RFI Midi.
C'est au Groenland qu'on trouve la deuxième calotte glaciaire la plus importante au monde après celle de l'Antarctique. Mais la vitesse de fonte des glaciers au Groenland a doublé ces 20 dernières années. La faute au réchauffement climatique qui lui aussi est accéléré dans cette zone septentrionale du monde. Les conséquences sont nombreuses et bien visibles, si bien que la population a déjà entamé une adaptation climatique, Othilia Ferré.
Au Groenland, les glaciers fondent 6 fois plus vite aujourd'hui que dans les années 80. Par heure, ce sont 30 millions de tonnes de glace qui se liquéfient. Et ces glaciers, on les appelle les baromètres du changement climatique. Un baromètre dans le rouge comme jamais auparavant, comme en témoigne Penelope Ruthau, glaciologue et climatologue à l'Institut de recherche scientifique du Danemark et du Groenland.
Nous disposons désormais de plus de 3 décennies de mesures, ce qui nous permet de réellement observer des tendances à long terme de la température de l'air. Tout indique un réchauffement. Nous n'avons pas connu d'hiver avec 30 jours de froid consécutifs depuis 2000.
Dans cette partie du monde, les températures augmentent 4 fois plus vite que sur le reste de la planète. Sur une carte, Pénélope pointe du doigt le centre du Groenland, puis différentes autres régions de l'île.
Au lieu de neiger ici, il pleut parfois maintenant, ce qui détruit la banquise. Le glacier d'Ilulissat a énormément reculé, il s'est complètement effondré. On observe aussi beaucoup plus de tempêtes ici. Ce genre de fortes tempêtes qui coupent le courant électrique vont devenir la routine. Et quand l'électricité cesse de fonctionner, ça devient très difficile très vite.
En décembre dernier, les 20 000 habitants de la capitale ont été privés d'électricité pendant près de 10 heures, alors que la température extérieure avoisinait les moins 13 degrés. L'hôpital de Nuuk, les services d'urgence et la police ont dû utiliser des générateurs de secours. Et pour éviter l'hypothermie, des habitants se sont réunis dans un gymnase où une chaufferie avait été installée par la municipalité. Les Inuits sont aux premières loges de tous ces dérèglements qui rendent leur quotidien imprévisible. Kupanuk, Inuit et ingénieur, est né et a grandi dans le sud du Groenland.
Dans mon enfance, on pouvait prédire la météo 4 à 5 jours à l'avance, rien qu'en regardant les nuages. Nous ne pouvons plus faire cela, car le temps change beaucoup plus vite. Notre météo est devenue beaucoup plus instable, et ça commence à avoir des conséquences très graves sur nos vies.
À Kanak, dans le nord, c'est assez marquant. On observe clairement que la banquise se forme de plus en plus tard. Ça impacte le mode de vie des locaux qui ne peuvent plus chasser ou utiliser leurs méthodes traditionnelles. Ils doivent trouver des solutions et s'adapter. Au lieu d'utiliser des chiens de traîneau sur la glace, on voit beaucoup de gens utiliser des kayaks. Certaines années, on a beaucoup de glace qui se détache des glaciers et les petits morceaux dans l'eau peuvent constituer un danger énorme pour les bateaux. C'est très imprévisible. Les gens dépendent des fjords pour leur survie et ça complique beaucoup la vie.
Erik Kjelsen est consultant et s'occupe de développer le sud du Groenland. Aujourd'hui, il propose même aux chasseurs locaux de devenir guide pour les touristes américains en quête de chasse aux trophées sur ces terres gelées. Il raconte que dans son enfance, la glace était stable tout l'hiver, ce qui permettait aux chasseurs d'attraper les phoques sans risque. Mais les choses ont drastiquement changé.
Ici, dans le sud du Groenland, on ne peut plus chasser sur la glace parce que la banquise s'est brisée en petits morceaux. Ici, on l'appelle de la glace pancake. On a aussi beaucoup plus d'icebergs. Dans le sud, on dépend beaucoup de la chasse aux phoques et lorsque la banquise ne se forme pas, ça a de grosses conséquences sur leurs revenus.
La chasse aux phoques est une tradition inuite ancestrale, mais les Groenlandais commercialisent aussi l'animal pour sa fourrure, sa graisse et sa viande. Mais avec la banquise qui se raréfie, beaucoup de chasseurs ont dû se reconvertir en pêcheurs. Sauf que cette activité-là aussi comporte de nouveaux challenges.
Les courants ont beaucoup changé, ce qui fait bouger les glaces plus vite. Donc les pêcheurs peuvent rapidement être pris en étau. Donc oui, ça peut être dangereux.
Si la tendance actuelle de réchauffement persiste, les scientifiques estiment que la fonte totale du Groenland et de l'Antarctique pourrait entraîner une élévation de 12 à 20 mètres du niveau des océans sur plusieurs millénaires. Des océans qui ne cessent de se réchauffer. Sous la surface aussi, Erik a noté des changements.
De nouvelles espèces de poissons sont arrivées, mais ceux qui vivent dans les eaux froides disparaissent.
Au Groenland, le poisson, le phoque ou la viande de baleine sont généralement séchés en juin et en juillet, mais la saison a maintenant été décalée.
Les chasseurs de baleines commencent à sécher leur viande seulement fin août maintenant, car ce n'est qu'à partir de là qu'il fait plus froid et qu'il y a moins de mouches.
En se réchauffant, les océans ont de plus en plus de mal à absorber le CO2. La calotte glaciaire emprisonne elle aussi en son sein des tonnes de gaz à effet de serre, ainsi que du méthane 25 fois plus puissant. Lorsqu'elle fond, ces gaz sont relâchés dans l'air. Si les Inuits ont appris à s'adapter aux conséquences sur leur terre, ils rappellent que la fonte des glaces au Groenland a des impacts dans le monde entier.
Otilia Ferret, ce reportage est à retrouver ce soir dans Accent d'Europe, 19h10 précisément, temps universel.
RFI Midi. Un monde de tech.
Le réseau X du milliardaire Elon Musk représente-t-il une menace pour la démocratie en Allemagne? X a en tout cas perdu un procès face à deux organisations représentant la société civile. À ce sujet, un tribunal de Berlin vient en effet d'ordonner à la plateforme anciennement Twitter de fournir des données illimitées aux chercheurs jusqu'au lendemain de la campagne. X est régulièrement accusé d'immission dans cette campagne pour les législatives anticipées au profit de l'extrême droite. Je retrouve Nathalie Versieux à Berlin pour en parler. Bonjour Nathalie.
Bonjour Grégoire.
Correspondante en Allemagne pour RFI. Alors Nathalie, pardon, de quoi s'agit-il ?
Eh bien, en fait, il s'agit d'une plainte qui avait été déposée contre la société d'Elon Musk, X, par deux organisations à but non lucratif, le DRI et la Société pour les droits humains. Ces deux organisations enquêtent sur les émissions dans la campagne électorale qui a lieu en ce moment même en Allemagne. Les chercheurs de ces deux organisations ont le soupçon que l'algorithme de X pourrait favoriser l'extrême droite. Alors, rappelons qu'Elon Musk, le patron de X, a ouvertement appelé à plusieurs reprises à voter pour le parti d'extrême droite allemand, l'AFD, qu'il a accordé à la chef de ce parti, Alice Weidel, un entretien sur sa plateforme et à aucun autre candidat. Il a également assuré à plusieurs reprises que seule l'AFD peut sauver l'Allemagne, ce qui avait provoqué une levée de boucliers dans le pays. Alors, les deux organisations ont porté plainte pour non-respect de la réglementation européenne DSA, une réglementation peu connue qui garantit aux chercheurs un accès aux données publiques des très grandes plateformes en ligne, des données telles que la portée, le nombre de likes, le partage des tweets, etc. X refusait d'accorder cet accès aux associations, d'où la plainte.
La justice a donc donné raison à ces organisations représentant la société civile. Que va-t-il se passer maintenant ?
Eh bien, X est désormais obligé de communiquer ses données aux chercheurs des deux associations. C'est un vrai succès pour la société civile, c'est en tout cas ce qu'estiment ces associations. La décision n'a en effet rien d'anodin. Si on en croit plusieurs études, une étude de l'université de Munich, par exemple, qui avait révélé l'an passé que les algorithmes de Facebook ou d'Instagram favorisaient certains partis politiques. Une autre étude du Center for Countering Digital Hate de l'an passé, dans le cadre cette fois de la campagne pour les présidentielles aux États-Unis, avait démontré que certaines déclarations fausses d'Elon Musk sur X avaient été consultées plus de 2 milliards de fois sur la plateforme, un effet considérable. Toujours selon cette étude, X aurait joué un rôle décisif dans la diffusion de fausses informations dans les swing states aux États-Unis, ces États qui ont joué un rôle décisif dans l'élection. Les postes de Musk sur X ont été deux fois plus présents sur la plateforme que tous les autres postes à caractère politique lors de la campagne américaine, et tout cela aurait représenté un avantage de 24 millions de dollars au bénéfice du candidat soutenu par Elon Musk, Donald Trump.
Nathalie Versieux en Allemagne pour RFI. Merci à vous pour toutes ces précisions.
RFI Midi. RFI à Berlin. 96.7 FM.
Et l'invité culture aujourd'hui est un jeune cinéaste rwandais. Son premier long métrage a été sélectionné au Festival du cinéma de Berlin. Il s'agit de Philbert Mbambazi. Il a réalisé Minimals in a Titanic's World, un long métrage qui met en scène une danseuse de Kigali. Dans ce film, il est question de deuil, d'amour et d'épanouissement. Il est au micro RFI d'Elisabeth Le Quéré.
Philbert Mbambazi, bonjour.
Bonjour.
Votre premier long métrage trace le portrait d'Anita, une danseuse qui se produit dans un club à Kigali. On la découvre à un tournant de sa vie. Elle veut devenir chanteuse, elle compose ses propres chansons et dans le même temps, on apprend que son compagnon vient de mourir dans des circonstances un peu mystérieuses.
Oui, c'est ça. Le film donc parle de ça et il y a un thème qui est le deuil parce que Anita et les amis du défunt se rencontrent pour faire le deuil.
Anita, elle a du mal à trouver sa place dans le groupe.
Oui, voilà, tout le film est autour de cette sorte de nouvelle famille qui se crée, mais surtout le personnage d'Anita qui s'est de suivre son chemin, de son ambition de chanteuse et qui crée et qui essaie de trouver aussi une sorte de solace dans la création.
une sorte d'épanouissement. Justement, on a l'impression que ce film, c'est le portrait d'une génération qui se cherche dans un monde où il y a très peu d'adultes et où les adultes, finalement, n'aident pas beaucoup et sont plutôt des prédateurs.
Pour moi, l'idée, c'était un peu de détourner la situation parce que le deuil, c'est pour la famille. Et moi, j'essaie de retourner la situation. Donc, le deuil, c'est pour les amis aussi. Et voilà, le Rwanda, c'est un pays où 60% des gens sont à moins de 30 ans. Donc, ils sont nés après 94. Et je cherche à faire un film qui leur donne place, où ils sont au centre de tout. Voilà.
Le titre de votre film, Philbert Mabazi, c'est Minimorphs in the Titanic World. Comment pourrait-on traduire en français ?
C'est des êtres minimes dans un monde immense. Ce n'est pas un voyage épique qu'on va faire avec ces personnages. Pour moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est des personnages qui peuvent paraître simples, mais qu'on va suivre et qu'on va voir au-delà du contexte sociopolitique.
C'est un voyage émotionnel que vous proposez aussi avec tous les moyens du cinéma, de la musique et surtout de la danse.
Oui, Anita aussi, en traversant tout cela, est inspirée et commence à écrire des chansons un peu inspirées par la perte qui est négative d'une façon, mais où elle va trouver quelque chose à partager avec les gens.
Philbert Mabazi, à quoi ressemble aujourd'hui le paysage du cinéma à Kigali ?
Le paysage du cinéma à Kigali est très inspirant. Il y a un bon nombre de jeunes cinéastes. C'est des gens qui travaillent beaucoup dans la solidarité et qui partagent la passion, parce que chez nous, il n'y a pas d'école de cinéma, il y a un fonds qui commence à se mettre en place, qui prend encore sa vitesse petit à petit. Mais donc, malgré tout, c'est vraiment autour de cette communauté-là des cinéastes et la passion et l'ambition qui les traverse, qui est aussi un peu contagieux envers tout le monde, qui nous fait continuer à faire des films. Et donc, ça donne beaucoup, beaucoup d'énergie et beaucoup d'inspiration. Et c'est très, très prometteur.
Philbert Mabazi, merci beaucoup.
Merci à vous.
Philbert Mabazi, donc, qui répondait aux questions d'Elisabeth Le Quéré sur son long métrage sélectionné au Festival de Berlin. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio France Internationale. D'ici une demi-heure, un peu plus, ce sera l'heure de retrouver Afrique Midi avec vous, Arthur Ponchelet. Bonjour Arthur.
Bonjour Grégoire, bonjour à tous.
Alors au sommaire aujourd'hui,
on fait un point complet sur la situation à Bukavu, la capitale du Sud Kivu en RDC, et ce retour progressif à la normale. Les habitants recommencent à sortir timidement dans les rues après la prise de la ville par le M23 et l'armée rouge. On sera en ligne avec Pauline Azidi à Kinshasa. On appelle aussi le chercheur Paul-Simon Andy. On parle avec lui du malaise ce week-end au sommet de l'Union africaine, dont les chefs d'État n'ont pas condamné explicitement le Rwanda. À partir de 12h30, temps universel, on est aussi au Togo pour évoquer les résultats des sénatoriales, au Niger et le sort de l'otage du JNIM, Alassane Souleymane. Et puis au Mali, où l'association des consommateurs s'exprime après le projet de nouvelles taxes. A tout à l'heure.
A tout à l'heure, Arthur. Merci.
RFI à Mindelo, 100.7 FM.
Eh oui, un peu de musique, ce que vous entendez en fond, c'est Fabio Ramos, un musicien, un chanteur de nationalité capverdienne. Ce morceau que vous entendez, c'est Umkalis Ndera Terra. Très bonne écoute sur RFI.
J'aime Cindy Bourdain, la paix, vantade, viaja pra longe, anda na mundo, qualquer lugar. Já me senti por dentro, a perguntada, viaja pra longe, anda na mundo, qualquer lugar. Tô longa a guitarra, longa a guitarra, que dura minha viagem, essa melodia tá guiando. Tô longa a guitarra, longa a guitarra, nem tá sem fronteira e nem cá tem um instinto pra tirar. Me já flama mar, calma este fadiga, da manter na fé, Senhor Deus que te guia. Meu coração com te levar, e guia de luz que te brilha, melodia que ser minha alma tem bom fé. Tô longa a guitar, tô longa a guitar.
Ce mercredi, vivez sur RFI la soirée spéciale Ligue des Champions. Cédric de Oliveira.
Objectif 8e de finale. Le Real Madrid de Kylian Mbappé retrouve Manchester City une semaine après sa victoire 3-2 en Angleterre. Pep Guardiola et les Sky Blues rêvent de prendre leur revanche. Le PSG tentera lui de confirmer sa large victoire à Brest 3-0. Les barrages retour de la Ligue des Champions, ce sera à vivre en direct et en intégralité ce mercredi sur RFI à partir de 19h40 TUR.